Temple des Muses, une émission culturelle de Radio Sud, élaborée et présentée par Claudie, accompagnée de Nathan à la technique. Cette nouvelle émission vous proposera l'histoire sur les grands musées et aussi les plus petits, qui préservent l'histoire, la culture, l'héritage de notre patrimoine. Cette année est le centenaire du peintre Claude Monet. C'est un des événements phares de l'année, maître de l'impressionnisme disparu en 1926. L'évolution d'un peintre fauché à l'artiste célébré dans le monde entier. J'aimerais vous raconter son histoire. Je devrais plutôt dire celle de sa maison appelée la Maison du Pressoir et son jardin qui deviendront un musée dans le village de Giverny en Normandie. Pour une immersion totale, écoutez l'histoire de la maison du pressoir, du jardin et du peintre Claude Monet. Toujours avec Claudie au micro, Nathan aux commandes, sur Radio Sud 88.7 FM, l'émission Le Temple des Muses et en musique avec Pascal Obispo avec l'album Héritage. Bonne écoute!
Les nappes phréatiques sont vides. Il ne reste rien à pleurer de nos yeux reflets humides. Subsiste de lacs asséchés. Le monde aura fini par faire de nos cœurs des zones arides, des terres qui craquent et qui rident sous un soleil qui indiffère. Il faudrait que pleuve l'amour pendant des nuits, pendant des jours. Il faudrait des fleuves d'amour pour des rivières changer le cours. Il faudrait que pleuve l'amour pendant des nuits, pendant des jours. Il faudrait des fleuves d'amour pour de l'avenir changer le cours. Les nappes phréatiques sont vides. L'état d'urgence est déclaré. Trop de peines payées en liquide. Trop de tristesse accumulée dans le sous-sol de notre chair. Reste-t-il une source limpide, une capacité même timide à s'émouvoir comme naguère? Il faudrait que pleuve l'amour pendant. Il faudrait des fleuves d'amour pour des rivières changer le cours. Il faudrait que pleuve l'amour pendant des nuits, pendant des jours. Il faudrait des fleuves d'amour pour de l'avenir changer le cours. Changer le cours, il faudrait que pleuve l'amour pendant des nuits, pendant des jours. Il faudrait des fleuves d'amour pour de l'avenir changer le cours, changer le cours. We'll be right back.
L'histoire de la maison devenue un musée. L'histoire de la maison et du jardin de Claude Monet à Giverny est celle d'une métamorphose complète. Le peintre transforme un simple domaine agricole normand en un chef-d'œuvre impressionniste vivant. Monet y consacre 43 dernières années de sa vie, de 1883 à 1926. Il façonne son environnement pour en faire l'unique sujet de cette toile. Voici le récit détaillé de l'arrivée de l'artiste à la renaissance du musée actuel.
Au milieu d'une mare de bitume, d'angle droit, fleurir on ne peut pas.
Gyrophare, sirène sur le boulevard, à chacun de nos pas, du monde on sent le poids.
Nous qui voulions flotter, flotter.
Nous qui voulions flirter, flirter
avec les éléments,
l'eau, le soleil, le vent.
Nous qui voulions flotter, 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 nous laisser emporter
et nager tranquillement
au-dessus des courants.
De trottoir, dans l'eau trouble on se voit, fané pas après pas.
Coup de cafard, aux nouvelles du soir, c'est le monde qui glisse, happé par les abysses.
Nous qui voulions flotter,
qui voulions flirter, flirter
avec les éléments,
l'eau, le soleil, le vent. Nous qui voulions flotter,
flotter, flotter, flotter,
nous laisser emporter et nager tranquillement au-dessus des courants.
Thank you.
la découverte et le coup de foudre. En avril 1883, Claude Monet voyage à bord d'un train local. Il aperçoit par la fenêtre le village de Giverny. Séduit par le paysage, il décide d'y louer une maison appelée la Maison du Pressoir. Il s'y installe en mai 1883 avec sa compagne Alice Orchedet, les deux fils de Monet, Jean-Michel, et les six enfants d'Alice. À cette époque, le domaine comprend une maison crépie de roses, un potager, un verger de pommiers et une grange. Une voie ferrée sépare le terrain en deux. En novembre 1890, les finances de l'artiste s'améliorent. Grâce au succès de cette toile vendue par Paul Durand-Ruel, Monet achète la maison et le terrain pour 22 000 francs.
Au pays radieux des enfants de cœur, prometteur de septième ciel, pas besoin d'aller chercher ailleurs un bonheur artificiel, illusoire la gloire. Jeter en pâture et se croire ami avec tout le monde sans quitter ses quatre murs.
Yeah. ciel est à vendre. Même le ciel est à vendre à Paradisland.
La transformation de la maison. Devenu propriétaire, Monet agrandit la maison sur les côtés et l'aménage selon ses propres goûts chromatiques, en rupture totale avec les codes bourgeois de l'époque victorienne. Sa façade, il fait peindre les volets en vert pomme au lieu de gris traditionnel. Pour s'harmoniser avec la végétation, la salle à manger, peinte en jaune, chrome bicolore, elle est conçue pour mettre en valeur sa collection de 231 estampes japonaises, des œuvres qu'il collectionne passionnément. Sa cuisine, tapissée de carreaux bleus de Rouen, elle contraste volontairement avec le jaune de la pièce voisine. Ses cuivres étincelants témoignent de l'amour de Monet pour sa gastronomie. Ses ateliers, la grange à temps devient son premier atelier. Plus tard, face aux exigences de ses formes géantes, il fera construire un deuxième, puis un troisième atelier, qui est actuellement la boutique du musée.
Un quart d'heure d'anonymat, dans l'avenir tout le monde aura un quart d'heure d'anonymat. Le passeras-tu avec moi? Les falaises à Étretat, la mer qui s'écrase en bas, un quart d'heure à minima. Le passeras-tu à mon bras? Un quart d'heure d'anonymat, et puis on retombera dans les creux des caméras, les lumières d'une gloire lambda. Peut-être qu'on se parlera, peut-être qu'on s'étonnera. Ce quart d'heure d'anonymat, de voir qu'il ne nous tue pas, de voir qu'il ne nous tue pas. Un quart d'heure d'anonymat, dans l'avenir tout le monde aura un quart d'heure d'anonymat. Le passeras-tu avec moi? Un quart d'heure c'est déjà ça, à ne vivre que pour soi. Je me demande parfois, aura-t-on ce talent-là? Peut-être qu'on se parlera, peut-être qu'on s'étonnera. Ce quart d'heure d'anonymat, de voir qu'il ne nous tue pas, de voir qu'il ne nous tue pas. Tu en feras quoi? Et toi, tu en feras quoi? Et toi? Et toi? Et toi? Tu en feras quoi?
Création du Clos Normand, le jardin des fleurs. Monet, passionné de botanique, supprime le verger et le potager d'origine pour dessiner un jardin de perspectives et de couleurs. Il refuse les jardins à la française trop géométriques, ainsi que des jardins anglais et très stricts. Il mélange les fleurs, selon leur couleur, leur hauteur, pour créer des effets de flou et de lumière, comme sur une toile. Il fait installer des arceaux métalliques le long de l'allée centrale pour y faire grimper des capucines et des roses damas. Il associe des fleurs simples, coquelicots, pâquerettes, à des variétés rares et précieuses, orchidées, iris de collection, pivoines de pays lointains.
Il y a un mur devant la mer, alors on regarde le mur. On dit que la mer est derrière, mais nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Il y a quelques branches de lierre, des mots tracés à la peinture. Il y a un mur devant la mer, alors on regarde le mur. À travers est bien plus bleu et bien plus grand, et ce qu'on devine à travers est bien plus bon que l'océan. Les jours passent comme des pierres alignées dans un mur. Il y a un mur devant la mer, alors on regarde le mur. On y lance nos pauvres misères qui se brisent comme cristal pur. Au fond, on n'a pas tant à faire, alors on regarde le mur. Et ce qu'on devine à travers est bien plus bleu et bien plus grand. Et ce qu'on devine à travers est bien plus beau que l'océan. Bien plus beau que l'océan. Il y a un mur devant la mer, alors on regarde le mur. On dit que la mer est derrière, mais nous n'en sommes plus vraiment sûrs. Plus vraiment sûrs. Nous n'en sommes plus vraiment sûrs. Nous n'en sommes plus vraiment sûrs.
Nous n'en sommes plus vraiment sûrs.
Plus vraiment sûrs.
Vraiment sûrs.
La naissance du jardin d'eau en 1893. 10 ans après son arrivée, Monet souhaite intégrer l'élément aquatique à son œuvre. Il achète un terrain marécageux situé de l'autre côté de la voie ferrée. Le détournement de l'Epte, malgré l'opposition farouche de ses paysans locaux qui craignent que ces plantes exotiques n'empoisonnent l'eau. Monet obtient l'autorisation de détourner un bras de l'Epte, la rue, pour alimenter son bassin. Il fait construire le célèbre pont japonais en bois peint en vert pour s'éloigner du rouge traditionnel asiatique. Il y fait grimper des glycines blanches et violettes. Il plante des nénuphars blancs et colorés au fond du bassin. Pour maintenir la limpidité de l'eau et enlever la suie des trains, un jardinier est engagé exclusivement pour nettoyer les feuilles des nénuphars chaque matin avant que Monet ne commence à peindre. Ce jardin d'eau devient l'unique obsession picturale de ces 30 années donnant naissance aux séries de nymphéas. Pourquoi est-il obsédé par le tableau des nymphéas ? L'obsession de Claude Monet. pour la nymphéa qui l'a poussé à peindre près de 250 toiles de son étang sur une période de 30 ans. S'explique par une quête artistique et spirituelle absolue. Pour lui, le sujet n'était pas les fleurs elles-mêmes, mais le miroir de l'eau et ses reflets changeants. Monet disait « L'essence du motif est le miroir d'eau dont l'aspect se modifie à chaque instant. » L'étang de Giverny était pour lui un laboratoire parfait. Il y traquait les variations microscopiques de la lumière, du vent et des nuages, à travers les saisons et les heures de la journée. Fixer sur la toile ce qui change continuellement est devenu le grand défi de sa vie.
On a le temps d'aller chercher une fin d'histoire, rouler en boule dans un tiroir. On verra ça plus tard. On a le temps de mettre l'amour en bas de laine. Ils feront la saison prochaine si les beaux jours reviennent. On a le temps de se poser sur un divan, à compter les soleils couchants et voir venir le vent. On a le temps de trembler pour un coup de froid, voir qui le premier partira. On a le temps pour ça. On a le temps qu'il faut, eh oh. On a le temps qu'il faut, oh, oh. On a le temps qu'il faut, eh oh. On a le temps qu'il faut, oh, oh. On a la vie pour savoir quel en est le prix. Profiter de l'après-midi, et même s'il pleut, tant pis. On a la vie qu'il nous faut prendre à bras le corps, comme une corbeille de pépites d'or. On a la vie encore.
On a l'amour pour sur un banc se prendre la main et parler de l'automne qui vient.
On verra ça demain. On a l'amour pour qu'une couverture à carreaux sur nos genoux nous tiennent chaud.
On a l'amour qu'il faut.
On a l'amour qu'il faut, eh oh. On a l'amour qu'il faut, oh, oh. On a l'amour qu'il faut, eh oh. On a l'amour qu'il faut, oh, oh. On a l'amour qu'il faut.
On a l'amour qu'il faut.
De faire un musée de la maison et du jardin de Monet. C'est Michel Monet, le second fils et unique héritier de Claude Monet, qui a eu l'initiative décisive d'envisager la transformation du domaine en musée. L'histoire de cette création s'est déroulée en plusieurs étapes clés. À sa mort, en 1966, n'ayant pas d'héritier, Michel Monet choisit de léguer par testament la maison et les jardins de Giverny à l'Académie des Beaux-Arts. Son objectif explicite était de mettre à l'abri les souvenirs de son père et de concevoir un lieu ouvert au public et aux admirateurs de l'artiste. Après le décès de Monet en 1926, le domaine est resté habité par sa belle-fille, Blanche Monet-Auchedet, jusqu'en 1947, avant de tomber progressivement à l'abandon. Faute de moyens, l'Académie des Beaux-Arts ne peut pas l'ouvrir immédiatement. C'est en 1977 que l'institution confie la propriété à Gérard van den Kerp, le célèbre conservateur qui venait de restaurer le château de Versailles.
J'ai rêvé de ces grands espaces entre montagnes et océans, des vents qui souffrent des messes basses. J'ai rêvé que j'étais vivant, j'ai rêvé d'une solitude à dessous d'autres latitudes, de me réveiller près de toi. Et chaque matin tu étais là, j'ai rêvé que j'étais vivant.
Ouais, on ira pas.
Ce n'est pas possible autrement. J'ai rêvé toute ma vie durant. Ce n'est pas possible autrement. Vivant à voir la vie en rose, vivant à croire en quelque chose. Vivant, vivant aussi à en souffrir, vivant un jour à en mourir. Vivant, vivant de toute ma chair mon sang, vivant comme jamais mon sang. Vivant, vivant à ne plus m'en passer, vivant à tout recommencer. Vivant, j'ai rêvé de longues amitiés, que rien n'altère au fil des ans, de ne pas aimer à moitié. J'ai ravi tant de temps au temps, à chanter tout ce qui me chante, devant des foules enchantées, une liberté extravagante qui ne m'aura jamais quitté. J'ai rêvé que j'étais vivant. Ce n'est pas possible autrement. J'ai rêvé toute ma vie durant. Ce n'est pas possible autrement. Vivant à voir la vie en rose, vivant à croire en quelque chose. Vivant, vivant aussi à en souffrir, un jour à en mourir. Vivant, vivant de toute ma chair mon sang, vivant comme jamais mon sang. Vivant, vivant à ne plus m'en passer, vivant à tout recommencer. Vivant. Chance, vivant, vivant, oui, mais de mon plein gré, vivant, c'est pas que respirer, vivant, vivant à m'enivrer de l'air, vivant chaque heure comme la dernière, vivant, vivant à hurler sur les toits, vivant, je suis vivant, tu vois. Chose. Vivant, vivant aussi à en souffrir, vivant un jour à en mourir. Vivant.
L'ouverture l'ouverture du musée en 1980, grâce à d'importants mécénats, notamment américains. Gerald van der Kemp et son épouse ont orchestré 3 années de travaux titanesques pour reconstituer à l'identique la maison et les jardins. La Fondation Claude Monet a officiellement ouvert ses portes au public le 1er juin 1980. Voici les détails sur les deux histoires fascinantes. La folle aventure de la renaissance des jardins de Giverny et le destin incroyable du legs de Michel Monet. Lorsque Gerald van der Kemp arrive à Giverny à la fin des années 1970, les jardins sont devenus une véritable jungle, impénétrable. Le bassin aux nymphéas est totalement envasé. Les serres sont brisées et la nature a repris tous ses droits. Pour accomplir ce que beaucoup considèrent comme un miracle horticole, il s'est associé au jardin chef Gilbert Vahy. Ensemble, ils ont mené une enquête historique et minutieuse.
Avant ma première cigarette, avant d'avoir menti un jour à mes parents, à mon enfance, avant d'avoir été un autre, avant d'avoir touché mon corps, avant d'avoir connu l'orgueil, avant que la peur me fascine, avant d'avoir eu des angoisses, avant d'être cet imbécile, cette âme que plus rien ne dérange, j'étais un ange. Dans mon habit de communion, quand je tenais la main de maman, j'étais un ange, un ange, un ange. Et passe zombie dans la ville, un ange, un ange, un ange. Ce corbeau noir inutile, un ange. Avant d'avoir eu des copains, un peu voyous, un peu malins, faiseurs de poches, voleurs de frimes, avant d'avoir été un lâche, avant d'avoir tenu une fille, avant d'avoir été gentil, avant d'avoir été un monstre, avant d'avoir eu ce courage,
avant d'être cet imbécile, cet homme que plus rien ne dérange, j'étais un ange.
Avant d'avoir trahi des gens, avant d'avoir aimé l'argent, j'étais un ange. Un ange, un ange.
Dis maman, tu t'en souviens,
un ange. Je te prenais la main, un ange.
des archives visuelles. L'équipe s'est appuyée sur les rares photographies et les daguerréotypes, c'est-à-dire ce sont des photographies qui capturent l'image sur une plaque de cuivre recouverte d'argent. Donc ça, c'était d'époque. Pour retrouver la structure exacte des allées. Les peintures du maître, les œuvres de Monet ont servi de guide. Colorimétrique, c'est-à-dire pour ajuster les couleurs, pour savoir exactement où le peintre aimait associer certaines teintes de fleurs. Il y a aussi les témoignages. Gilbert Vahé a retrouvé et interrogé les derniers anciens jardiniers qui avaient travaillé directement sous les ordres de Claude Monet. Il y a aussi bien sûr le choix des plantes. Ils ont ainsi pu replanter les variétés exactes d'iris, de rose et de pivoine que le collectionneur, l'artiste, tout en faisant creuser à nouveau le célèbre étang pour y réinstaller les nymphéas. Donc les nymphéas, c'est les genres de nénuphars. Et reconstruire le pont japonais à l'identique.
Je collectionne les aventures, les objets d'art et les voitures. Ça fera des trésors dans les mâles et du mal à personne. Je récupère les anges qui passent et les affaires de cœur à la casse. Il reste de la place dans les mâles, c'est égal, puisque toi tu ne m'auras laissé qu'un archipel de séquelles, de mots éternels, de migraines à l'appel. Un archipel de séquelles, de fièvre et de fiel, d'absence à l'appel.
Thank you.
Au début des années 1910, Monet traverse une période de profonde déjection. La mort de son épouse Alice en 1911, suivie de celle de son fils aîné Jean en 1914, lui coupe l'envie de peindre. C'est son ami de longue date, l'homme d'État Georges Clemenceau, qui le pousse à se lancer dans un projet fou pour surmonter son chagrin. Réaliser une immense décoration murale basée sur son bassin au nénuphar. Monet, alors âgé de 74 ans, retrouve l'inspiration et décide de consacrer ses dernières forces à ce testament pictural.
Viens comme tu veux, en avion, en courant, en marchant, dans un jour, une heure ou maintenant. Viens comme tu es, avec ou sans accent, étranger, sans frontières, sans drapeau libre en frère. Viens sans amour, tendre ami, toi l'amoureux de la vie, avec tes qualités, tes défauts aussi. Viens. Et peu importe ton genre, le ciel saura bien te comprendre sans te juger. Viens tout recommencer. Viens sans raison, peu importe la saison, au soleil, sous la pluie, à l'abri des intempéries. Viens te chauffer, te blottir sans aucun projet d'avenir, sans en rougir, oui, viens sans réfléchir. Viens si t'as mal, si t'as peur, quand t'es seul comme un chien abandonné, ça va te faire du bien. Viens sans pudeur, sans penser au passé, en passant ou pour rester. Oui, viens sans hésiter. Allez, viens. Ni victoire, sans superbe et sans gloire, sans lumière, le cœur en bandoulière. Viens sans guitare, sans piano, ici, et à tout ce qu'il te faut. Tu verras, demain tout changera. Viens, héritier ou mendiant, main derrière, l'autre devant, sans croissant, sans les fleurs, sans l'argent. Viens, la nuit au soleil, le vent, viens quand tu seras pas bien dedans. Mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez, viens. Mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez, viens.
Construction du troisième atelier en 1915. pour peindre des toiles mesurant 2 mètres de haut et totalisant près de 91 mètres de long, les ateliers existants de Monet sont beaucoup trop étroits. En 1915, en pleine Première Guerre mondiale, Monet fait construire à Giverny un troisième bâtiment industriel massif, baptisé le Grand Atelier, qui abrite aujourd'hui la boutique de la Fondation Claude Monet. Ce lieu est une prouesse technique pour l'époque. Une lumière zénitale. Le toit est entièrement vitré pour baigner l'espace d'une lumière naturelle constante. Un système de verrières mobiles, des rails au plafond permettent de déplacer et de suspendre les immenses châssis entoilés. Un support roulant, Monet fait installer des chevalets à roulettes pour pouvoir juxtaposer les panneaux, recréant ainsi la courbure et la continuité des compositions circulaires qu'il imagine.
Je ne sais plus maintenant si j'aime encore les roses. La vie ne m'attend pas, je me promène seul, seul parmi l'indifférence des choses,
seul et l'indifférence des choses. Chercher partout, il pleut, le ciel est couvert d'échymoses. On dirait que la nuit est en manque de nuit, que le chagrin jamais ne se repose.
Le chagrin jamais ne se repose. Se repose. Sa fenêtre, une vieille femme arrose.
À sa fenêtre, une vieille femme arrose.
Je traîne mon ennui le long des rues. Il faudrait enfin qu'un jour je m'ose foutre le camp n'importe où, même si ailleurs c'est comme ici. Je ne sais plus maintenant si j'aime encore les roses.
La vie ne m'attend pas, je me promène seul.
Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus maintenant si j'aime encore.
Si j'aime encore.
Fille de la cataracte et de la vieillesse. La réalisation de ses œuvres est un véritable calvaire, physique pour le peintre vieillissant. La perte de la vue, dès 1912, on lui diagnostique une cataracte bilatérale, qui s'aggrave considérablement en 1922. Monet ne perçoit plus les couleurs correctement. Les blancs lui paraissent jaunes et le monde se teinte de rouge ou de bleu. La technique des étiquettes. Pour ne pas se tromper, il est obligé de classer ses tubes de peinture sur la palette dans un ordre strict et de se fier aveuglément aux étiquettes. En 1923, après avoir longtemps refusé par peur de perdre totalement la vue, il se fait opérer d'un œil. L'usage de lunettes spéciales lui permet de terminer cette toile, bien qu'il détruise régulièrement des panneaux entiers dans ses accès de rage et de frustration.
Au milieu de l'océan, tout petit, devant l'infiniment grand, si tu pleures, c'est seul face aux éléments. Si tu cries, ici personne,
personne ne t'entend. Quand on n'attend plus rien de personne, la terre ne fait que vous décevoir, parce que les prédateurs sont lâchés et que l'être humain manque à ses devoirs. S'il reste un endroit à conserver où il ne se raconte pas d'histoire,
c'est ici,
au milieu de l'océan,
tout petit,
infiniment grand.
Si tu pleures,
c'est seul face aux éléments.
Si tu cries, ici personne,
personne ne t'entend. Encore un sens de l'honneur.
Qui est la seule règle?
Qui est la seule règle en ce territoire?
Bien plus.
Bien plus qu'une arène de gladiateurs.
C'est un endroit.
C'est un endroit sans héros ni gloire. Mon ami.
Quand on a la gueule au vent. Dieu, ni maître, ni parent,
mais debout.
Et s'il faut un survivant, ce serait toi, le dernier des rugissants.
Le dernier. Le dernier des rugissants.
Le don à la France et l'armistice en 1918. Le 12 novembre, 1918, au lendemain de l'armistice de la Première Guerre mondiale, Monet écrit à Georges Clemenceau. Il offre officiellement à la nation française deux de ses grands panneaux en guise de monument à la paix. Clemenceau saisit l'occasion et convainc Monet de faire un don bien plus important, un ensemble complet de 8 compositions monumentales réparties sur plusieurs panneaux. Le contrat officiel de donation est signé en 1922.
Reste-t-il du bonheur ou le pot est-il vide? Reste-t-il du bonheur ou sommes-nous trop lucides? Reste-t-il du bonheur, ne serait-ce que des chutes, même des faibles lueurs, même pour quelques minutes? Reste-t-il du bonheur que les autres délaissent pour une rayure mineure, pas de première jeunesse? Reste-t-il du bonheur, comme on voit dans la rue, un réfrigérateur dont personne ne veut plus? Reste-t-il du bonheur, ne serait-ce que les bouts? Reste-t-il du bonheur, au moins assez pour nous? Reste-t-il du bonheur, profondément enfoui, qu'on croyait par erreur, éternellement enfoui? Au milieu des poubelles, comme on trouve dans la rue, des sapins de Noël, quand janvier est venu. Reste-t-il du bonheur, peut-être est-ce de ma faute, j'aurais dû le ranger sur l'étagère haute. Quelques débris mineurs, vestiges d'un autre temps, polaroïde couleur ou harpour noir et blanc.
Anecdote. Il a gagné le gros lot à la loterie nationale. En 1890, alors qu'il vit à Giverny depuis 7 ans, mais qu'il peine encore à joindre les deux bouts, la chance tourne. Monet gagne la somme de 100 000 francs or à la loterie de l'Opéra de Paris. Cet immense coup de chance change sa vie. Il devient financièrement indépendant, quitte son statut de locataire et achète immédiatement la maison de Giverny, ainsi que les terrains adjacents, pour y concevoir son célèbre jardin d'eau. Monet n'était pas seulement un amoureux des couleurs, c'était aussi un immense gourmand. Très pointilleux, il tenait des carnets de recettes de cuisine, extrêmement précis. Il exigeait que les repas soient servis à des heures militaires, le déjeuner était à 11h30 précise pour profiter de la lumière de l'après-midi. Il aimait tellement la bonne chair qu'il faisait venir cette truffe du Périgord et faisait cultiver des variétés de légumes très rares dans son potager de Giverny. Le peintre était un éternel insatisfait et un perfectionniste absolu. Quand une toile ne correspondait pas exactement à sa vision ou que la lumière changeait trop vite, il entrait dans une rage folle. Il lui est arrivé de nombreuses reprises de lacérer ses propres toiles à coups de couteau, de les piétiner ou même de les brûler, juste avant une grande exposition en 1908. Il a ainsi détruit une trentaine de tableaux de sa série des Nénuphars, reportant l'événement de plusieurs mois. Pour sa célèbre série sur la gare de Saint-Lazare à Paris, Monet voulait peindre les panachés de fumée des locomotives. Trouvant qu'il n'y avait pas assez de vapeur ce jour-là, il s'est présenté en costume élégant chez le directeur de la Compagnie des chemins de fer. Impressionné par l'aplomb de l'artiste, le directeur a accepté de bloquer les quais, de retarder les départs des trains et de faire chauffer les machines à blanc pour que les locomotives crachent toute la fumée noire et blanche dont Monet avait besoin pour ses chefs-d'œuvre.
Dis-moi, pourquoi tu pleures? Dis-moi, qui t'a fait souffrir? Parle-moi, vie de ton cœur. Moi aussi j'en suis passé par là, je connais ça. Quand on ne peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre, à qui dire qu'on est seul, qu'on est seul. Dis-toi, que rien ne s'arrête, tout s'oublie. Oui, avec la vie, je sais bien. Rien quand il vous manque quelqu'un, je sais tout ça. Quand on peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre, à qui dire qu'on est seul.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous quitte en rêvant des tableaux de Monet, le jardin d'eau avec son bassin au nénuphar, le pont japonais avec ses glycines, les saules pleureurs et ses bambous, le paradis des fleurs avec ses pivoines, ses arches métalliques où grimpent les capucines et ses roses anciennes. Monet disait « Je dois peut-être aux fleurs d'être revenu peintre ». Tout en rêvant, écoutez-moi sur Radio Sud 88.7 FM, tous les mardis à 14h. Contente de vous revoir dans 15 jours sur l'émission « Le Temple des Muses ».
Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout, faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres que plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Même si je n'ai pas le temps d'assurer mes sentiments, j'ai en moi, oh, de plus en plus fort, des envies d'encore, tu sais, non, je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs, de refaire ce qui est plus à faire, revenir en arrière. Lucie, Lucie, t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois, à peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Tour de tant d'histoires d'amour, j'ai bien, bien assez de courage pour tourner d'autres pages. Sache que le temps nous est compté, faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun regret ne vaut le coup pour qu'on le garde en nous, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour.